Que feriez-vous si Dieu vous demandait de vous promener nu en parlant de lui, pas juste une demi-journée, mais pendant 3 ans? Il vaut mieux avoir la ligne là. Hein. Que feriez-vous si Dieu vous demandait de rester couché sur un côté dans votre lit pendant 390 jours, d'un côté, côté droit, et puis de vous tourner enfin au bout de 390 jours. On imagine les démangeaisons, peut-être les escarres, comme on dit. Vous demandez de vous tourner de l'autre côté pendant 40 jours. Souvent, dans certains mouvements chrétiens actuels, les gens aspirent à être prophètes. Mais être prophète, déclarer la parole de Dieu, pas nécessairement à l'avance, mais la prêcher avec force, avec conviction, ça peut demander de grands sacrifices. Et rien ne nous dit que Ésaïe était exhibitionniste, donc pour lui c'était 3 ans d'agonie. Mais, et pour Ézéchiel aussi, qui aurait bien aimé bouger plus souvent, ils l'ont fait parce que Dieu les a utilisés comme des leçons. Aujourd'hui, il y a peut-être même des étudiants en com à la fac de lettres. On n'a que ce mot à la bouche, la com, la communication. Nos hommes politiques ont des experts en communication qui leur apprennent comment parler, comment se tenir, comment s'habiller. Mais le maître absolu de la communication, qui est-ce ? C'est Dieu. Dieu nous a parlé dans les anciens temps par les prophètes. Et il est dit qu'aujourd'hui, il nous parle par le Fils, dans la lettre aux Hébreux. Dieu utilise souvent les prophètes de façon visuelle. Il n'avait pas de vidéoprojecteur, mais il avait déjà compris que nous sommes frappés en tant qu'humains par les choses que nous voyons. Et donc cette façon de demander à Ésaïe de se promener nu pendant 3 ans, c'était pour annoncer que le royaume assyrien, l'empire assyrien, emmènerait l'Égypte et l'Éthiopie en exil. Et à ce moment-là, ces gens seraient complètement dans le dénuement, seraient complètement nus. Ézéchiel, cette histoire de se retourner comme une crêpe, mais très très lentement, 390 jours sur un côté, 40 jours de l'autre, c'était pour signifier qu'il y aurait 390 années de punition pour Israël, le royaume du Nord, et seulement 40 jours de punition pour le royaume du Sud, le royaume de Juda. Et donc, Dieu utilise des méthodes très graphiques, très visuelles, pour communiquer avec nous. Aujourd'hui encore, la croix, c'est le symbole de son amour. Peut-être qu'il y a des fois où vous vous dites, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne me donne pas des circonstances favorables, mais chaque fois que vous voyez encore, peut-être que ça va disparaître au nom de la laïcité, mais on voit encore des croix sur des bâtiments, c'est un rappel de l'amour infini de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer une étude dans le livre d'Osée, en anglais Osée, et on va voir que là aussi, Dieu va demander à ce prophète, Osée, c'est le premier des petits prophètes, ça se trouve avant les évangiles, après ce qu'on appelle les grands prophètes. Osée fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient petits par la taille ou petits par l'importance. C'est simplement une référence à la moindre épaisseur de leurs écrits. Vous connaissez les prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, ce qu'on appelle les grands prophètes, parce qu'ils ont écrit de longs textes, longues prophéties. Les petits prophètes, eux, ont des ouvrages, des prophéties qui sont beaucoup plus courtes, même si en fait Osée, c'est un des plus longs, et il y a plus de chapitres dans Osée que dans le livre de Daniel. Les petits prophètes sont appelés en hébreu ou en araméen les douze, parce que comme les apôtres, il y a 12 petits prophètes. Et aujourd'hui, on va entamer l'étude de Osée, chapitre 1. Parmi nous, il y en a qui sont encore célibataires, qui aimeraient bien se marier, qui prient le Seigneur pour qu'il amène la bonne personne dans leur vie, avec le désir de faire sa volonté. Pour le prophète Osée, Dieu lui a posé un défi. Il lui a dit d'aller épouser une prostituée. On va voir comment ça se déroule. On va essayer de regarder les trois premiers chapitres. Le troisième est très court. Mais Dieu parle par ses prophètes pour illustrer des vérités profondes. Dans l'Ancien Testament, il est souvent question d'idolâtrie. Et pour nous qui vivons au XXIe siècle, on pense que l'idolâtrie, c'est vraiment quelque chose réservé aux peuplades primitives. Il y en a peut-être encore, mais c'est au fin fond de l'Amazonie, ou ce qu'il en reste, ou au fin fond du Sri Lanka, dans des coins perdus. On pense qu'on est des gens intelligents et qu'on ne va pas se prosterner devant des statuettes ou des grandes statues. En fait, il faut comprendre que ces statues, ces statuettes, et la Bible nous l'explique, la Bible a beaucoup à dire sur ces dieux que les hommes se fabriquent, ces dieux qui n'ont pas de Dieu pour nous voir, ces dieux, petits dieux qui n'ont pas d'oreilles pour nous écouter, ces dieux qui n'ont pas de jambes pour marcher, il faut qu'on les transporte. Et aujourd'hui encore, il y a certes, même dans l'église chrétienne, il y a des parties de l'église chrétienne où on porte des statues. Les statues ne se portent pas toutes seules. L'idolâtrie, ce n'est pas la statuette ou la statue ou la représentation qu'on a faite d'une idée ou d'un dieu selon nos idées. Le principe de l'idolâtrie, c'est ce qu'il y a derrière. Et par exemple, vous avez entendu parler du faux dieu Baal, qui est souvent évoqué dans l'Ancien Testament, un dieu auquel les enfants d'Israël ont souvent porté un culte idolâtre. Mais ce qu'ils faisaient, en fait, lorsqu'ils apportaient des sacrifices devant ces petites statuettes de Baal, c'était essayer d'influencer les choses, le sort, pour qu'ils aient de bonnes récoltes. Il était le dieu des récoltes. Et donc, quand on venait sacrifier à Baal, ce n'est pas la statuette qui comptait. Ce qui comptait, c'était la bonne récolte. Autrement dit, le motif de l'adoration, ce n'était pas une représentation. Le motif de l'adoration, c'était l'argent. C'était l'argent qui était leur priorité. Ils voulaient être prospères, ils voulaient être riches. Et ils étaient prêts à se tourner vers cette idole qui représentait l'espoir de devenir riche. Lorsqu'ils rendaient un culte à la déesse Astarté, qui a donné le nom de Pâques en anglais, Easter, ça vient d'Astarté. On ne va pas faire l'explication complète, mais sachez qu'en fait, c'était la déesse de la fertilité. Et lorsqu'ils allaient au temple pour adorer Astarté, en fait, ce qu'ils allaient faire, c'était trouver des prostituées sacrées pour avoir des relations sexuelles illicites avec ces soi-disant prêtresses d'Astarté. Et donc, ce n'était pas la déesse, ce n'était pas la statue, le temple où se trouvait la statue qu'ils recherchaient, c'était avant tout des relations sexuelles illicites. Quand on met les choses dans cette perspective, on s'aperçoit qu'en fait, l'idolâtrie, elle perdure. Les hommes aujourd'hui veulent toujours plus d'argent, plus de finances. Les gens sont en recherche d'une sexualité débridée. Et en fait, une meilleure définition de l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la première place dans votre vie, la première place qui devrait revenir à Dieu. Notre vie devrait être centrée sur Dieu. Dieu est le Créateur. Dieu est celui qui a tout commencé, c'est lui qui va tout finir. Nous sommes appelés à vivre une vie éternelle avec lui ou loin de lui, selon ce que nous faisons ici-bas. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est très exclusif. C'est même quelque part arrogant de penser qu'on peut aller dire à des gens qui ont d'autres religions, « En fait, vous vous trompez. » Jésus est le seul chemin vers Dieu. C'est arrogant, suffisant, détestable, si ça n'est pas la vérité. Mais si c'est la vérité, alors ne rien dire, ne pas aller annoncer cette vérité, alors c'est le comble de l'arrogance, du mépris des autres. Lisons ensemble le début de Osée. Osons oser. Parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Béhéri, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda, et durant celui de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël. Début des paroles de l'Éternel à Osée. On va s'arrêter là juste pour commenter ce premier verset qui nous donne le contexte de la prophétie. Je vous rappelle entre parenthèses que le jeudi soir, Tonio mène une étude qui survole toute la Bible en 24 heures, 24 sessions d'une heure, et que récemment, il a justement étudié les petits prophètes. C'est en ligne si vous allez sur calvarychapelle-nice.fr, vous avez accès à des notes et aux enseignements qu'il met en ligne. Là, on sait peu de choses sur Osée, seulement le nom de son père, Béhéri. Par contre, on sait qu'il a eu un ministère qui a couvert plusieurs rois de Juda. Alors je vous rappelle, Juda et Israël, lorsque David est arrivé sur le trône, qu'il a eu son fils Salomon, il n'y avait qu'un seul royaume. Et à la mort du roi Salomon, il y a eu une division du royaume en deux royaumes, le royaume du sud, qui regroupait Juda et Benjamin, et le royaume du nord, qui regroupait les autres tribus, les 10 autres tribus, qu'on appelle des fois aussi le royaume d'Éphraïm, le royaume de Samarie. Samarie, c'était la capitale du royaume du nord. Jérusalem était la capitale de Juda, le royaume du sud. Et ces deux États ont eu des destins un peu parallèles, mais je parlais tout à l'heure de Ézéchiel qui devait rester 390 jours sur un côté pour Israël et seulement 40 jours pour le royaume de Juda. En fait, quand on fait la liste des rois qui se sont succédés dans le royaume du Nord, on ne trouve pas un seul bon roi, c'est-à-dire un seul roi qui respectait Dieu et ses préceptes. Par contre, dans le royaume de Juda, il y a eu une alternance de bons rois, de rois qui essayaient de faire la volonté de Dieu de leur mieux, et de moins bons rois, de mauvais rois. Et les règnes Ozias, Jotham, Akaz et Ézéchias, c'était des rois du royaume du sud, de Jérusalem, Juda. Et puis il cite le roi Jéroboam, qui en fait est le deuxième du nom, Jéroboam II, fils de Joas sur Israël. Donc on se place dans le temps. Ce n'est pas des légendes, ce sont des choses qui sont vraiment, se sont passées, qui sont historiques. Il y a plein d'éléments extra-bibliques, en dehors de la Bible, qui expliquent, qui montrent l'histoire de ces nations et de ces royaumes. Et on est en possession d'informations qui montrent que ce qui est dit ici, c'est la réalité historique. Il a essentiellement, donc il a été contemporain de grands prophètes comme le prophète Amos ou le prophète Ésaïe, et qui eux aussi ont eu un ministère qui a couvert plusieurs règnes de rois. Le ministère d'Osée, c'était essentiellement vers le royaume du Nord, vers le royaume d'Israël, vers le royaume dont la capitale était Samarie. Il a historiquement, c'était entre l'an 760 et l'an 720. On compte à rebours. Il a commencé en 760, il a fini en 720 avant Jésus-Christ. Et c'est intéressant de voir un peu en termes d'années, lorsqu'il parle, les royaumes avaient été divisés déjà, et Dieu va lui donner un message. La plupart du temps, les messages des petits prophètes, c'est lorsque vous lisez ces passages, souvent je dis, pour trouver les petits prophètes, vous cherchez les pages blanches de votre Bible. Parce que c'est souvent des passages qu'on ne connaît pas bien, qu'on n'étudie pas souvent, et pourtant ils sont dans le canon, dans la Bible. Dieu les a mis là par le Saint-Esprit, et la vie du peuple d'Israël, c'est souvent un parallèle ou une illustration de notre propre vie. Généralement, si nous réalisons, nous sommes des pécheurs. C'est pas généralement, nous sommes tous des pécheurs, mais généralement, nous ne réalisons pas. Et les petits prophètes, ils parlent de ça, ils parlent du péché du peuple. du peuple qui aurait dû connaître Dieu parce qu'ils sont de la race des Israélites qui ont été appelés par Dieu son peuple. Il y a le péché du peuple et il y a le jugement imminent qui va arriver. Mais toujours, il y a la grâce et l'amour de Dieu qui sont associés à un appel à la repentance, à cesser d'aller vers le péché pour retourner vers lui. Et ça, c'est aussi l'histoire de ma vie, l'histoire de votre vie probablement. Dieu, si nous avons eu la bénédiction de le connaître par Jésus-Christ, nous savons qu'il est là, nous sommes son peuple, nous lui appartenons. Mais notre vieille nature pécheresse est toujours là et nous pouvons succomber et tomber dans le péché. Et Dieu est fidèle et juste pour nous rappeler qu'il y a un jugement imminent si nous continuons dans le péché. Mais toujours nous avons cette promesse de sa grâce, cet amour non mérité, de son amour infini pour nous, qui est à notre portée si nous lui demandons pardon. Lui demandons pardon. Verset 2. L'Éternel dit à Osée, « Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Dieu dit à Osée donc d'aller trouver une femme prostituée. Certains disent que peut-être elle ne se livrait pas encore à la prostitution lorsqu'il est allé vers elle. Mais l'idée, ce serait plutôt que c'était une femme de mauvaise vie, une femme de mauvaise réputation, quelque chose qui allait scandaliser les gens de l'époque. Même si eux allaient voir les prostituées, ils pensaient que Osée, c'était un homme de Dieu, ce n'était pas vraiment un prêtre, parce qu'un prêtre avait l'interdiction formelle d'épouser une prostituée. Mais c'était quelqu'un qui aimait Dieu, qui parlait de lui. Et Dieu lui demande d'aller prendre une prostituée. Peut-être qu'il en avait marre d'être célibataire. Il disait, Dieu, donne-moi une femme, sinon j'en peux plus. Oui, va prendre une prostituée. Et puis des enfants de prostitution. Et tout de suite, Dieu nous donne la clé, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. L'idolâtrie est souvent comparée à l'infidélité conjugale dans la parole de Dieu. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu l'infidélité conjugale, et vous savez que c'est quelque chose de très douloureux. Quelque chose où on se remet beaucoup en question, on est rempli de chagrin. C'est tellement fort que Jésus a dit que c'était la seule raison qui permettait à un couple de divorcer. Dieu a horreur du divorce. Mais s'il y a infidélité, ce n'est pas obligatoire, il peut y avoir pardon et réformation, pardon et redémarrage d'une vie dans le mariage. Mais c'est quelque chose qui déchire, qui fait beaucoup de mal. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu crie, le pays se prostitue. Le pays se livre à l'idolâtrie, il abandonne l'Éternel. Et on entend le cri de Dieu qui souffre. Ça, c'est un des mystères de la foi chrétienne, c'est qu'on peut, par nos actions, faire souffrir Dieu. On peut attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, nous est dit dans les Épîtres. En ne vous livrant pas à l'immoralité et des tas de points. Mais Dieu souffre lorsque nous nous éloignons de lui. lorsque nous avons d'autres priorités dans notre vie que de le connaître, de l'aimer, de le servir, de le faire connaître. Il abandonne l'Éternel. Est-ce que moi, dans ma vie, j'abandonne l'Éternel ? Est-ce que j'ai d'autres priorités qui sont devenues des idoles dans ma vie ? C'est comme si je me prostituais. Je me donne à quelqu'un d'autre en échange de bénéfices. Je peux m'adonner à corps et âme à mon travail. Je veux réussir dans mon entreprise. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ma famille et encore moins d'aller prendre du temps pour apprendre la Bible ou venir assister à des cultes. Où je recherche la gloire. Tout ce que je fais, c'est de la com. Où je veux le pouvoir. Tout ce que je fais, ça va être comment est-ce que je peux marcher sur les gens pour avancer dans le monde politique, me retrouver député, et puis peut-être un jour secrétaire d'État, ministre, et peut-être premier ministre, et un jour bonheur suprême, président de la République. Il n'a pas l'air d'être si heureux que ça, le pauvre président que nous avons maintenant. Mais ça, c'est parce qu'on s'adonne à l'orgueil, à la soif de pouvoir politique. Ça peut être la sexualité, peut devenir une idole. Aujourd'hui, c'est terrible parce que avec Internet, on a accès à tout et n'importe quoi. La seule retenue, c'est votre... Vous pouvez avoir des programmes que d'autres contrôlent, qui vous restreignent un peu, mais c'est votre propre moralité, c'est votre propre volonté par l'aide du Seigneur. L'homme est curieux par nature et Internet répond à toutes vos curiosités, tout ce qui peut vous passer par la tête. En quelques secondes, ça peut vous proposer des endroits. L'Internet peut être une très bonne chose pour la foi, pour Dieu, mais c'est comme toute chose, c'est une arme à double tranchant qui peut vous faire beaucoup de mal. Dieu va demander au prophète de symboliser dans sa relation maritale la relation brisée que le peuple entretient avec l'Éternel. Verset 3, il alla prendre Gomer, fille de d'Iblaïm. Notez que, contrairement à ce que j'aurais fait et ce que vous auriez sans doute fait, ça n'a pas la tête. Attends, j'ai mal entendu, tu veux que j'aille épouser quoi ? Une prostituée ? Ça ne va pas ? Non, il obéit, tout comme Ésaïe ou Ézéchiel. Encore une fois, nos prophètes du dimanche, j'entends par là ceux qui se disent faussement prophètes dans certains mouvements un peu marginaux, ils n'ont généralement pas le cœur prêt à une obéissance à des choses aussi radicales. Il alla prendre cette dame, Gomer, fille de d'Iblaïm, on n'en saura pas plus sur elle, à part avant qu'elle ne rencontre Osée, ou qu'Osée aille la chercher. Elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, appelle-le Jisréel. Souvent aussi, la Bible nous montre que Dieu indique des noms pour les gens qui sont souvent porteurs d'un message biblique. Jisréel, ça voulait dire Il y avait un sens négatif qui voulait dire dispersé, un sens positif qui voulait dire semer, parce que quand on sème des graines, on les disperse à la surface de la terre. Là, il lui demande d'appeler ce premier fils Jisréel, car encore un peu de temps, et j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Jisréel. Je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisréel. Encore une fois, la Bible est plus claire si vous la pratiquez. La Bible est plus claire si vous la connaissez, si vous la lisez tous les jours. Ces choses vont vous rappeler d'autres choses. Le roi du moment, Jéroboam II, descendait de la famille de Jéhu, un homme qui avait pris le pouvoir contre le roi Akab. Akab qui était marié à, comment s'appelait-elle, à Jézabel. J'allais dire Jézréel, non, c'était Jézabel, une femme connue pour sa sensualité, sa perversion, sa méchanceté, dont il est question même dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse. Et lorsqu'il avait, à l'époque, lorsqu'on prenait le pouvoir, on ne se contentait pas de gagner des élections, surtout lorsqu'on prenait le pouvoir violemment, mais on s'assurait qu'il ne restait plus aucun descendant qui pourrait contester le royaume et la légitimité à revenir sur le trône. Donc Jéhu avait non seulement fait tuer Akab, mais 70 de ses fils. Il les avait alignés dans cette vallée, la vallée de Jisréel, qu'on peut voir aujourd'hui. Quand on va en Israël, c'est ce qu'on appelle aussi la vallée d'Armageddon. Armageddon, c'est la colline de Megiddo. Il y a une ville qui s'appelle Megiddo. Il y a une grande plaine en plein Israël où la Bible nous explique que des combats auront lieu dans la fin des temps. Des forces humaines contre les forces de Dieu. C'est une très belle plaine fertile, mais elle était. C'est là aussi que dans l'histoire il y a eu de grandes batailles, même dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est un champ de bataille modèle parce qu'il est très plat, très grand, et en même temps on a des collines et des petites montagnes qui permettent de voir ce qui s'y passe. Et donc, il demande de l'appeler Jisréel parce qu'il va mettre fin au royaume de la communauté d'Israël. Jéhu avait pris le pouvoir et Dieu dit qu'il va mettre fin à ce royaume du Nord. Ça va se passer en l'an 722. Le prophète Osée, qui va prophétiser jusqu'en 720, va voir la réalisation de ses propres prophéties. On imagine avec le cœur plein de tristesse et plein de chagrin, toutes ces mauvaises prophéties, il va les voir se réaliser. Dieu va briser l'arc d'Israël, c'est la force d'Israël. Dieu va briser les rafales, ou les mirages, ou les F-16, je ne sais pas, les F-18, d'Israël dans la vallée de Jisréel. Il va mettre fin à ce royaume. Donc le premier fils, Osée, sait que c'est son fils. Et puis, il est dit, verset 6, « Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, « Appelle-la Lo-Ruhama. » Lo-Ruhama. Et quand un nom est donné à un enfant, il faut penser à toutes les fois que cet enfant est appelé par ses parents ou ses amis, que la prophétie est annoncée. Lo-Ruhama vient ici. Lo-Ruhama va ranger ta chambre. Lo-Ruhama, ça voulait dire celle dont on n'a pas compassion, celle qui n'est pas aimée. C'est pas un très bon. Je ne recommande pas de donner ce prénom à vos enfants, même si vous aimez bien la sonorité, Lorushama. Et toi, la mal-aimée, viens ici. La mal-aimée, tu as fait tes devoirs? Et il dit, il explique, cette petite fille va porter ce nom comme un témoignage du fait que je ne vais plus avoir de compassion pour Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Dieu pardonne et pardonne, mais là, il dit, je ne pardonnerai plus. Ça, c'est quelque chose qu'il est bon de réaliser. Il peut y avoir une limite au pardon de Dieu. Historiquement, on l'a vu dans l'arche, avec l'arche de Noé. Pendant 120 ans, Noé a été un prêcheur de justice. Il a expliqué qu'il allait y avoir de la pluie qui allait recouvrir la terre, qu'il fallait rentrer dans l'arche. Et puis, un beau jour, l'arche s'est refermée, la porte s'est fermée. Nous avons vu dans 2 Pierre que la patience du Seigneur, le fait que la fin des temps n'est pas encore arrivée, c'est parce qu'il veut que tout le monde vienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. Mais un jour, à la plénitude des païens, lorsque le dernier païen qui doit être sauvé sera sauvé, ce sera trop tard pour les autres. Il dit, en revanche, verset 7, « J'aurai compassion de la communauté de Judas. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Et cette prophétie a été réalisée, on peut le lire dans 2 Rois 19, 35, où c'est l'ange de l'Éternel qui est intervenu et du jour au lendemain, 120 000 Assyriens ont été détruits, ont été mis hors d'état de nuire. Donc il privilégie encore une fois le royaume du sud de Juda où il y avait Jérusalem pour capitale. Mais on en reparlera, mais Judas aussi va être exilé et Judas aussi va excéder la patience de Dieu. Elle, verset 8, elle sevra l'orushama, elle a arrêté de la nourrir au sein, puis elle devint enceinte et mit au monde un fils. L'Éternel dit, appelle-le Lo-Ami. Lo-Ami, là aussi ce n'est pas un bon nom à donner à votre enfant. Ça veut dire, vous n'êtes pas mon peuple, et donc moi je ne suis pas votre Dieu. Waouh. Hé, pas mon peuple. Viens à table. Tu t'es lavé les mains, pas mon peuple. C'était un rappel que Israël s'était tellement livré à l'idolâtrie qu'ils avaient abandonné Dieu et le culte qu'ils devaient à Dieu, que Dieu s'était distancé d'eux au point de dire « Je ne les connais plus, ce n'est pas mes enfants. » C'est d'autant plus intéressant de dire ça que on est à peu près sûr que le premier enfant de Gomer, Jisraël, c'était le fils, puisqu'il exprimait que c'est Gomer qui est allé vers elle et qu'elle est devenue enceinte. Par contre, pour la mal-aimée et le pas mon peuple, on n'est pas sûr que ce ne soit pas un autre homme qui était le papa. Et lorsque Osée parle de pas mon peuple, ça peut l'avoir touché personnellement, il n'était peut-être pas sûr de la paternité envers cet enfant. Dieu fait une tâche étrange lorsqu'il punit. C'est pas dans son ADN. Dieu n'a sans doute pas d'ADN, mais c'est pour dire que c'est pas sa personnalité. Pourquoi je dis ça? Parce que verset, chapitre 2, premier verset, « Cependant ». Cependant, les Israélites seront pareils de par leur nombre au sable de la mer. On ne peut pas le mesurer ni le compter. Au lieu de leur dire « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les Judéens et les Israélites se rassembleront, ils se donneront un chef unique et sortiront du pays. En effet, elle sera grande, la journée de Jisréel. Dites à vos frères, amis et à vos sœurs, Rouchama, mon peuple, celle dont on a compassion. C'est comme si Dieu a du mal à condamner. Dieu a du mal à ne pas pardonner. Après avoir dit « Je n'aurai plus de compassion, tu n'es plus mon peuple », il ne peut pas s'empêcher d'ajouter « Bon, mais vous serez la prophétie faite à Abraham, la promesse faite à Abraham dans la Genèse 22-17 que vos enfants seront aussi nombreux que les grains de sable de la mer, elle va se réaliser. Je vais rester votre Dieu et vous serez mon peuple. Je vous montrerai de la compassion. » Ce qui est remarquable, c'est fait dans la foulée. Peut-être que nous, des fois, on se fâche avec quelqu'un, on dit « c'est fini, je ne veux plus te voir », mais ça va nous prendre un petit peu de temps. Alors là, on est en dehors du temps, bien sûr, Dieu ne vit pas dans le cadre temporel, mais il nous fait savoir aussitôt qu'il a promis sa colère, il promet son pardon. Plaidez contre votre mère. Et ce cependant, c'est une de ces expressions charnières qu'on trouve souvent dans les prophètes, dans les petits prophètes, ou pour cela dans le Nouveau Testament. Il y a souvent les « mais » prononcé par Dieu. Vous êtes dans le péché, mais et vous devez être puni, mais j'aurai compassion de vous. Vous vivez dans l'idolâtrie, vous m'avez abandonné, cependant, je vous pardonnerai et vous serez mon peuple et j'aurai compassion de vous. Verset 4 du chapitre 2. Plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari. Qu'elle retire de son visage ses prostitutions et d'entre ses seins ses adultères, sinon je la déshabillerai pour qu'elle soit toute nue, je la rendrai pareille au jour de sa naissance, je la transformerai en désert, je la changerai en une terre aride et je la ferai mourir de soif. » Et Dieu utilise la comparaison avec cette femme que Osée a épousée ou avec laquelle il y a eu des enfants, au moins un. Et Israël, le peuple de Dieu, il va transformer en désert Israël en une terre aride qui mourra de soif. Moyen-Orient, aujourd'hui encore, la sécheresse est un grand problème. La fourniture, la provision d'eau est une chose essentielle. Puis là, il continue, « Je n'aurai pas compassion de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. En effet, elle a dit, « Je veux suivre mes amants, ceux qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Voilà pourquoi je vais fermer son chemin avec des ronces et y construire un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle aura beau poursuivre ses amants, elle ne les rejoindra pas. Elle aura beau les chercher, elle ne les trouvera pas. Elle dira alors, je vais retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse à ce moment-là que maintenant. » Toute évidence, Osée, après avoir été avec Osée, cette femme, Gomère est retournée à sa prostitution, et elle avait l'impression que ses hommes, ses amants, ses clients, pourvoyait à ses besoins. Et elle voyait qu'il lui donnait du pain, de l'eau, de la laine, du lin, de l'huile, de la boisson. Et Dieu doit intervenir pour la ramener à la raison, en l'empêchant d'aller s'égarer sur le mauvais chemin. Dans ma vie, je remercie Dieu toutes les fois où il m'a empêché d'aller vers le péché, où il a mis des protections, une haie de protection, où il ne m'a pas soumis à la tentation, parce que je sais que j'aurais été le premier à céder à la tentation. D'où l'importance d'avoir cette relation de confiance avec Dieu, de lui demander de l'aide contre la tentation. Je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui justement avait succombé à des tentations graves et qui voulait arrêter. Et je disais, mais est-ce que tu demandes de la prière pour ça? Tu pries toi-même, mais demande de la prière. Dès qu'il y a la moindre pensée de tentation, appelle quelqu'un en qui tu as confiance, qui ne va pas le répéter sur tous les toits, mais qui va prier avec toi, avoir un vis-à-vis, c'est tellement important. Et je vous invite tous à ne pas vivre votre vie de chrétien tout seul, isolé. Vous voulez être en communion fraternelle, et c'est un désir qu'on a d'avoir davantage de communauté, et une communauté spirituelle, pas pour parler du dernier match de foot, ou du dernier film, ou de la meilleure recette de la soca, mais de parler de choses qui comptent, de choses éternelles, de votre relation avec Dieu, de vos problèmes, dans votre vie de chrétien. Et Dieu dit, elle n'a pas reconnu, verset 10, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui ai accordé en abondance. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé à son époque et mon vin nouveau dans sa maison, et je retirerai ma laine et mon lin, eux qui devaient couvrir sa nudité. Maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de mon pouvoir. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses célébrations du début du mois, ses sabbats et toutes ses fêtes solennelles. Je dévasterai ses vignes et ses figuiers, eux dont elle disait « Voici ». Voilà le salaire que m'ont donné mes amants. J'en ferai une forêt et les bêtes sauvages les dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle frusait brûler de l'encens l'honneur des Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, où elle suivait ses amants tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. Vous dites peut-être, oh, c'est bien beau cette histoire, mais c'était en 720. Presque 3000 ans, en quoi ça me concerne? Est-ce que vous remerciez Dieu pour les bonnes choses qui vous arrivent, pour les rencontres que vous faites, pour le travail qu'il vous a donné, même si ce n'est pas facile, même s'il y a un patron pénible, pour le logement que vous occupez, où vous dites, j'ai eu de la chance, j'ai eu l'examen, je suis tombé sur la seule question que j'avais travaillée. Est-ce que vous vantez de votre bonne fortune comme une petite idole qui vous fait du bien, ou est-ce que vous reconnaissez derrière la main de Dieu qui vous aime et qui pourvoit à vos besoins? Lorsque les gens vous disent, qu'est-ce que vous êtes gentil alors? Vous êtes adorable. Oh ben oui, je sais. Vous dites, c'est pas moi, c'est Dieu qui agit en moi. Est-ce que vous êtes prêt à lui donner la gloire qu'il mérite, à reconnaître que c'est lui qui pourvoit à tous vos besoins et qui vous bénit? Un autre mot charnière, on l'avait vu, il avait dit, voilà pourquoi je vais fermer son chemin avec des ronces, je vais l'empêcher de s'égarer. C'est pourquoi je vais prendre son blé. Il veut nous faire comprendre que c'est de lui que tout vient. Et là, il dit, c'est pourquoi, verset 16, C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu veut nous séduire, pas de façon sensuelle ou séductrice, mais il veut nous plaire, il veut que nous venions à lui parce que nous avons de l'amour pour lui. Il pourrait nous forcer, il le fait il nous évite d'aller trop loin dans le péché en mettant des protections sur notre route, en mettant des buissons, des ronces, en construisant un mur afin qu'on n'aille pas trop loin de lui, mais il ne nous force pas à venir à lui. Dieu veut une relation d'amour avec nous et on ne peut pas imposer l'amour à quelqu'un. Je dis souvent, si je vous mets un pistolet derrière le dos, un pistolet chargé, le doigt sur la gâchette en vous demandant de me dire que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Même si la personne me dit « je t'aime », ça ne va pas faire grand-chose au niveau de mes sentiments, d'être apprécié ou aimé. Dieu veut qu'on l'aime pour lui-même. Il veut qu'on vienne de nous-mêmes vers lui, qu'on lui fasse confiance, qu'on se tourne vers lui. Il veut parler à notre cœur. Est-ce que vous savez que Dieu veut parler à votre cœur? Dieu parle à nos cœurs. Vos aspirations les plus profondes, vos espoirs, vos chagrins, Dieu veut être en relation intime avec vous. Ce n'est pas une question d'avoir un rituel religieux, de dire qu'on appartient à tel et tel culte ou telle église. Est-ce que vous avez une relation personnelle avec Jésus, Dieu le Fils qui est venu mourir sur la croix pour mes péchés? Vous pouvez prendre du temps avec lui, aller marcher dans la nature, sur le bord de la plage, au travail, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez l'invoquer, vous pouvez prier. Il veut nous séduire, nous conduire au désert, là où il n'y a pas de distraction, pour parler à notre cœur. Là, verset 17, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. La vallée d'Accor, c'était un endroit où un certain Achan avait désobéi à Dieu et avait été puni. Ce n'était pas une bonne référence. Mais Dieu peut changer le passé douloureux en un espoir brillant. Certains voient là, dans la vallée d'Accor, une porte d'espérance, une belle représentation de la croix. La croix, c'est à la fois souffrance, mais en même temps espérance. C'est une porte d'espérance. Là, elle chantera. Dieu veut que vous chantiez. Elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte, allusion à la libération des Juifs d'Égypte. Et verset 18, ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Il ne veut pas une relation basée sur la hiérarchie, sur l'autorité, sur le « c'est mon patron, c'est mon maître ». Il veut une relation intime comme la relation d'un mari avec sa femme. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leurs noms, toutes ces idoles. Ce jour-là, verset 20, je conclurai pour une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Verset 21, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, verset 23, je répondrai, déclare l'Éternel. Je répondrai au ciel, il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile, et ils répondront à Jisréel. Je planterai l'eau Rouchama pour moi dans le pays, et j'aurai compassion d'elle. Je dirai à l'eau Ami, tu es mon peuple. Il répondra à mon Dieu. C'est l'amour de Dieu pour son peuple infidèle. C'est bouleversant, c'est son cœur. Et puis, on va regarder le chapitre 3. Rassurez-vous, il n'y a que 5 versets. L'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors qu'eux, ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Il répète la mission d'Osée, qu'il a confiée à Osée. Aller aimer, il renvoie aimer après qu'elle l'ait quitté, qu'elle ait commis d'autres adultères, il dit continue de l'aimer. Parce que c'est comme ça que j'aime mon peuple. Même s'il se tourne vers d'autres dieux et aime des gâteaux de raisin, c'était des gâteaux qu'on offrait aux idoles. Peut-être qu'après le culte, quelqu'un aura amené des gâteaux raisins, vous pouvez les manger. N'ayez pas de honte. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'or. Je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi sans te livrer à la prostitution, ni appartenir à aucun homme et j'agirai de même envers toi. En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans théraphim. Après cela, les Israélites reviendront. Ils rechercheront leur Dieu et David, leur roi. Ils retourneront en tremblant vers l'Éternel, vers sa bienveillance dans l'avenir. 15 pièces d'argent, c'était la moitié du prix d'un esclave. C'était le prix avec lequel on pouvait acheter dans l'Exode un esclave qui était blessé. C'était rien du tout. C'était le plus bas. 330 litres d'orge aussi, c'était une quantité et demie d'un gros sac d'orge. Et lui demande de rester à lui. C'est le prophète Osée qui demande ça à Gomère. Mais c'est aussi Dieu qui demande à son peuple de lui rester fidèle. Et encore une fois, on est dans la prophétie, là, on aborde le retour de Dieu à la fin des temps. Mais toujours est-il que maintenant, Israël, alors là, on ne fait plus trop la distinction entre le nord et le sud, mais aujourd'hui, Israël n'a plus de roi. Alors, il y a peut-être un chef, premier ministre, mais il n'y a plus de sacrifice possible, il n'y a plus de statut. Il n'y a plus de sacrifice parce qu'il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'éphod, il n'y a pas de prêtre qui célèbre le culte, il n'y a pas de théraphim, c'était des statuettes. Mais après cela, alors c'est un saut dans le temps, les Israélites reviendront. Dieu a un plan pour Israël. Pas seulement, on dit souvent que Dieu a remplacé Israël par l'Église, c'est faux, il suffit de lire le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, Romains 9, 10, 11, pour voir qu'il y a deux groupes qui sont réunis en un seul, mais Dieu a des bons plans aussi pour le peuple d'Israël et toutes les autres nations de la terre, les Européens, les Arabes, les Africains, toutes les nations qui ne sont pas descendantes des Israélites, ce que la Bible appelle les païens ou les gentils, Dieu a des bons plans. Et ce peuple qui a été si longtemps infidèle, il va avoir soif de rechercher l'Éternel Dieu. Ils vont rechercher David, leur roi. David, le roi, c'est souvent une préfiguration de Jésus-Christ. Et ils vont retourner en tremblant ou en tressaillant d'allégresse vers l'Éternel. Il y a de l'espoir. Et il y a de l'espoir pour vous qui vivez loin de lui, qui vivez peut-être dans le péché, qui êtes retombés dans le péché. Dieu veut vous dire que ça le fait souffrir lorsque vous êtes loin de lui. Autant que lorsqu'un mari trompe sa femme, aucune femme trompe son mari, ça le déchire au plus profond de lui-même parce qu'il nous aime. Il vous aime et il veut que votre vie envers lui, ce ne soit pas motivé par la peur, ce ne soit pas motivé par un rituel ou des règlements. Il veut que ce soit motivé par un amour profond qui vient de votre cœur. Et plus on le connaît, plus on voit son cœur, plus on réalise comment il nous aime, plus on a envie d'obéir en réponse, par amour, non pas par obligation, par peur de prendre une autre torgnole d'un côté. Non, il nous aime, il l'affirme. Il l'affirme de cette façon très belle et très poétique et prophétique dans Osée. On continuera la semaine prochaine. Prions. Seigneur, merci pour cet amour que nous ne méritons pas. Pardonne-nous de ne pas réaliser que le péché nous fait certes du mal, mais il te fait encore plus de mal, Seigneur. C'est une façon dont nous te rejetons, dont nous rejetons l'amour dont tu veux nous combler. Pardonne-nous lorsque nous ne te remercions pas pour les bonnes choses que tu nous donnes, même lorsque nous ne sommes pas fidèles à toi, Seigneur. Ta parole nous dit que tu restes fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Seigneur, apprends-nous à écouter ton cœur dans ce passage, dans les semaines qui vont venir, Seigneur. Que ce ne soit pas un vieux texte barbant, rétrograde, Seigneur, mais qu'on voit comment toi qui es le maître de la communication, tu utilises des méthodes audiovisuelles, Seigneur, pour toucher, pour nous faire comprendre. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous refusons. Et Seigneur, nous voulons maintenant célébrer la Sainte Cène en souvenir de ce sacrifice qui a été la preuve ultime de ton amour pour nous. Je te prie de bénir et de guider les moments de communion maintenant. Amen.